en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Marguerite Yourcenar prononçait le 22 janvier 1981 un discours historique sous la coupole de l'Institut de France pour son entrée à l'Académie française. Grâce à l'INA et à la Maison des écrivains et de la littérature qui organisait le 4 décembre 2010 une après-midi consacrée au 30e anniversaire de l'élection de l'écrivain à l'Académie française, nous vous proposons de revivre cet exceptionnel moment en écoute.
La séance est ouverte. La parole est à Madame Marguerite Yourcenar pour la lecture de son remerciement.
Messieurs, comme il convient, je commence par vous remercier de m'avoir, honneur sans précédent, accueilli parmi vous. Je n'insiste pas, ils savent déjà tout cela, sur la gratitude que je dois aux amis qui, dans votre compagnie, ont tenu à m'élire, sans que j'en eusse fait, comme l'usage m'y eût obligé la demande, mais en me contentant de dire que je ne découragerai pas leur effort. Ils savent combien je suis sensible au don de l'amitié, et plus sensible peut-être à cette occasion que jamais, puisque ces amis, pour la plupart, sont ceux de mes livres et ne m'avaient jamais, ou que très brièvement, rencontré dans la vie. D'autre part, j'ai trop le respect de la tradition, là où elle est encore vivante, puissante et, si j'ose dire, susceptible, pour ne pas comprendre ceux qui résistent aux innovations, vers lesquels les pousse ce qu'on appelle l'esprit du temps, qui n'est souvent, je le leur concède, que la mode du temps. Sainte Hutsonte, qu'ils demeurent tels qu'ils sont, est une formule qui se justifie par l'inquiétude qu'on ressent toujours en ne changeant qu'une seule pierre à un bel édifice debout depuis des siècles. Vous m'avez accueilli, disais-je, ce moi incertain et flottant dont j'ai contesté moi-même l'existence et que je ne sens vraiment délimité que par quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire, le voici. Tel qu'il est, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tenté de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Toutefois, n'oublions pas que c'est seulement il y a un peu plus ou un peu moins d'un siècle que la question de la présence de femmes dans cette assemblée a pu se poser. En d'autres termes, c'est vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France tout ensemble une vocation et une profession pour quelques femmes. Et cet état de choses était trop nouveau, peut-être, pour attirer l'attention d'une compagnie comme la vôtre. Madame de Staël eût sans doute été inéligible de par son ascendance suisse et son mariage suédois. Elle se contentait d'être un des meilleurs esprits du siècle. George Sand eût fait scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions qui font d'elle une femme si admirablement femme. La personne, encore plus que l'écrivain, devançait son temps. Colette, elle-même, pensait qu'une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix. Et je ne puis qu'être de son avis, ne l'ayant pas fait moi-même. Mais remontons plus haut. Les femmes de l'Ancien Régime, reines des salons et plutôt des ruelles, n'avaient pas songé à franchir votre seuil et peut-être eussent-elles cru déchoir, en le faisant, de leur souveraineté féminine. Elles inspiraient les écrivains, les régentaient parfois et fréquemment ont réussi à faire entrer l'un de leurs protégés dans votre compagnie, coutume qui, m'assure-t-on, dure jusqu'à nos jours. elle se souciait fort peu d'être elle-même candidate. On ne peut donc prétendre que dans cette société française, si imprégnée d'influence féminine, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Je n'ai donc pas lieu de m'enorgueillir de l'honneur si grand, certes, mais quasi fortuite, et de ma part quasi involontaire, qui m'est fait. Je n'en ai que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir ce seuil. Messieurs, laissons cela. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour louer publiquement un mort. Quoi de plus beau, dans un pays qui fut celui de Bossuet, que d'axer la cérémonie d'une réception académique sur la mémoire du prédécesseur disparu. Cet hommage rendu par celui qui vient à celui qui partit dissipe comme un grand vent salubre toute bouffée de vanité de la part du nouveau venu et l'oblige à de sages retours sur soi-même. Marie-Thérèse d'Espagne, cette épouse assez terne du grand roi, mes chers, pour avoir dit à ceux qui lui parlaient de sa splendide entrée dans Paris, jeune épousée et jeune reine, que de tels honneurs lui faisaient penser à ceux qui un jour l'attendaient à Saint-Denis. Le nouveau venu parmi vous ne peut que se tourner un instant vers le successeur inconnu, anonyme, qui aura un jour la tâche, peut-être à ses yeux la corvée, de célébrer à son tour un disparu. Naguère, dans un de mes livres, j'ai fait dire à un empereur, président à l'apothéose de son prédécesseur, qu'un éloge ne sied bien qu'aux morts. Vivons. La polémique nous poursuit. Les justes ou injustes critiques, les justes ou injustes éloges, mais les morts, lui faisais-je dire, ont droit à cette sorte d'intronisation dans la tombe avant les siècles de gloire et les millénaires d'oubli. Messieurs, à notre époque chancelante, nul n'est assuré de siècles de gloire. Mais nous le sommes tous de millénaires d'oubli. Et personne, mieux que Roger Caillois, que nous célébrons aujourd'hui, n'eût approuvé cette allusion aux couches quasi géologiques du temps, aux particules d'une durée coulant incessamment comme du sable et s'amoncelant sur nous quand nous ne serons plus. Quant à moi, parmi les privilèges qui me sont échus, je n'en connais pas de plus haut que celui d'avoir à faire l'éloge d'un grand esprit. Durant ces mois pendant lesquels j'ai su que j'aurais l'écrasant honneur de vous parler de lui, j'ai souvent senti sa présence quand il m'est advenu de regarder ou de manier des pierres. Je pense à une promenade au soleil couchant sur une plage isolée de l'île des Monts-Déserts, où il s'était rendu naguère, m'a-t-on dit, malheureusement en absence, pour examiner une collection de gemmes originaires de cette région. L'ami qui m'accompagnait et moi-même, nous étions venus pour y voir des phoques. Mais la marée était beaucoup trop basse, si basse qu'elle découvrait d'innombrables rocs sous-marins, encore loin, semblait-il, par la mer, qui depuis quelques heures les avait quittés, chevelures d'algues sur lesquelles glissaient ou s'éployaient comme des tresses de noyers, de légendes, des touffes d'herbes encore ruisselantes. Rocs igniers ou plutoniens, datant de millénaires où l'eau, l'air et le feu régnaient seuls dans un monde d'avant l'homme, à un moment où l'élémentaire commençait d'exister. Rocs sédimentaires ou composites, témoins d'un long brassage qui dure encore. L'ocre, le fer, le sulfate de cuivre ou le chrome avaient différemment teinté ce peuple de pierre. Le granit, comme toujours, régnait sur ses rivages. Je vois encore un granit gris, strié de basalte comme de veines noires, et un autre gris aussi, mais fourré d'un magma rose débordant de partout, espèce de pâtisserie millénaire. Une étrange chaleur montait de ces pierres après quelques heures passées au soleil, une tiédeur à peine différente de celle des éphémères mains humaines qui un instant se posaient sur elles. J'ai poncé à Kaiwa tout récemment, dans le cercle de pierres levées de Keswick en Cumberland, où je fis ce geste qui consiste à appliquer l'oreille, la joue et la paume sur la roche pour tenter de saisir la vibration des pierres. Non pas l'écho des voix du néolithique, déjà si voisine des nôtres, dans ce lieu où de préhistoriques disparus ont certainement parlé et prié. Rien que le son inouï du roc, la sourde vibration qui dure depuis des âges que nous ne chiffrons même pas. Je ne dirai pas, notion que pourtant j'accepte à demi, que son fantôme était proche. Quiconque a foi en la communion des esprits n'a que faire de fantôme. Son nom, tout au plus, fut peut-être prononcé, petit bruit de souffle qui si vite expire sur nos lèvres. Mais je me disais que cet homme dont j'allais avoir à parler devant vous, non pas n'était plus, car tout ce qui est dure encore, tout ce qui fut dure encore, mais se trouvait rentré dans son royaume. Il était allé jusqu'au bout de l'acquiescement profond, qu'à l'en croire, vivant, il avait déjà donné. Il n'avait plus besoin de s'interroger, ni de penser. Comme le dit si bien un personnage de Ionesco dans « Le roi se meurt », il n'avait plus besoin de respirer. Les minéraux qui le composaient appartenaient de nouveau à ce sol, dont sont nés les beaux objets qu'il ne se lassait pas d'aimer. Mais il nous avait laissé son exemple, celui d'un homme qui, disait-il, essayait de se diriger dans le sens des choses. « Cher Kaiwa, il m'arrivera encore de penser à vous en m'efforçant d'écouter les pierres. »
Vous avez écouté un extrait du discours historique prononcé par Marguerite Yourcenar sous la coupole de l'Institut de France le 22 janvier 1981 à l'occasion de son entrée et de sa réception à l'Académie française.